France Culture. Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
C'est sans doute l'affaire de meurtre non élucidée la plus retentissante de cette première moitié du XXIe siècle. Un de ces cold cases qui sème du mystère partout et prend de l'ampleur en même temps que grandissent les réseaux sociaux. Ça commence sur Facebook et maintenant ce sont des youtubeurs, des influenceurs et je suis sûre que les outils de l'IA seront vite sollicités. L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, XDDL, fascine ainsi des communautés entières depuis 15 ans, des enquêteurs, des journalistes, des simples citoyens ainsi que des proches des victimes. Déjà, on cherche à comprendre le mobile inimaginable d'une telle tuerie. Agnès, la femme et les quatre enfants. Et surtout, on recherche un homme disparu, mort ou en fuite, suicidé ou déguisé, en France ou au Japon et pourquoi pas aux États-Unis, l'auteur présumé de ces meurtres, Xavier Dupont de Ligonnès himself, un homme ultra secret issu de la vieille noblesse française. Se pencher 2 minutes sur sa page Wikipédia donne véritablement le vertige, tant il y a de pistes et de pièces à conviction mises à disposition du public, de documents, de témoignages, de rebondissements, de théories plus ou moins délirantes sur le présumé meurtrier, mais aussi sur chacun des membres de sa famille, la femme, les enfants, sa mère. Tout est retors, obscur et donne lieu à de nouvelles pseudo-révélations. Tout est incompréhensible, passionnant et à quelques clics de la découverte. Tout de suite donc, on ne peut plus sérieux, voici un policier lui-même tombé dans le panneau, si on peut dire, qui raconte tout de suite à Claudia Prolongeau comment cette affaire ne le quitte pas depuis plus de 10 ans.
Je m'appelle Gilles Galou, j'ai 57 ans, je suis retraité de la police judiciaire. Je me suis expatrié à l'étranger pour vivre ma petite retraite. J'ai 2 enfants, je suis marié, j'ai une vie très équilibrée, tout va bien, je suis très heureux. Alors, je suis devenu policier très tôt. Moi, j'ai commencé comme gardien de la paix. Et finalement, au fil des années, moi, quand j'étais gardien de la paix, je passais ma vie avec les inspecteurs de police, puisque c'est ça qui me passionnait. Et je passais ma vie à arrêter des voyous en uniforme. Et finalement, ils m'ont dit, Monsieur Galou, il y a un problème avec vous. On va arrêter de vous laisser en uniforme. Et du jour au lendemain, ils m'ont fait passer à la BAC à l'époque. Et j'ai fait des années à la BAC. Après quelques années de PJ, moi, je me suis spécialisé dans l'informatique, puisque aux alentours de l'âge de 33 ans, j'ai décidé de donner un nouveau tournant à ma vie. Et j'ai refait des études. Je suis parti aux arts et métiers. J'ai passé un doc d'informatique. Et donc, rapidement, j'ai postulé pour aller dans ces grands services de la police judiciaire, donc l'Office central de lutte contre les cybercriminels, pour faire court. Et là, j'étais enfin dans mon élément, puisque j'étais passionné par cette matière. Et donc moi, je suis arrivé à l'Office de lutte contre les cybercriminels dans les années 2000. Donc il y a plusieurs thèmes dans ces offices cyber, mais il y a des groupes d'enquête qui ont tous leur spécialité. La mienne, c'était de chasser les hackers. Et il s'est trouvé que moi, quand je suis arrivé dans les années 2000, c'était les premières affaires de phishing. Donc c'était les premiers clients de banque qui se faisaient vider leur compte bancaire sans avoir utilisé leur carte bancaire. Donc on a été les premiers policiers français à essayer de décortiquer et de comprendre le phénomène du phishing. On est en avril 2011, c'est Pâques. Je suis en vacances dans le pays de mon épouse, en Slovaquie. On est dans le salon de la famille de mon épouse et il y a une télévision qui est allumée sur une chaîne d'info. Et je vois une image qui apparaît à l'écran avec un bandeau, affaire criminelle à Nantes. Donc évidemment, ça m'interpelle. Je découvre l'existence de cette affreuse affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Donc à l'origine, c'est une disparition inquiétante qui est signalée par les voisins qui découvrent que les volets sont fermés au 55 Schumann, alors que les volets, depuis qu'ils se connaissent, ne sont jamais fermés. Donc c'est une voisine qui s'inquiète et qui commence à appeler la police de Nantes, qui vient aux alentours du 12 avril, je crois. Une famille entière a disparu à Nantes. Donc la famille est composée de 6 personnes, donc de Xavier Dupont de Ligonnès, Agnès, sa femme, Arthur, 20 ans, Thomas, 19 ans, Anne, 16 ans et Benoît, 13 ans. Et puis dans les jours qui ont suivi, des proches de la famille ont commencé à recevoir des lettres envoyé par le père. Il y avait deux versions. Il y avait une version qui est assez extravagante, puisqu'il est question, effectivement, d'une exfiltration, que Xavier Dupont de Ligonnès serait lui-même un agent de la DEA, donc des services anti-drogue américains, qu'il aurait été repéré. Et donc, il y a une mission américaine qui est chargée d'exfiltrer lui-même et toute la famille en extrême urgence. Donc, évidemment, ça paraît complètement farfelu pour tout le monde. Puisque, enfin, nous, en tant que policiers, on sait très bien que la DEA n'a pas besoin d'un agent français, ils n'ont certainement pas besoin, et personne n'y croit. Et une deuxième version qui était Xavier Dupont-Ligonnès a été muté en urgence en Australie, et toute la famille embarque en urgence pour suivre le père. Dans les jours qui ont suivi, la disparition est devenue de plus en plus inquiétante, puisque les jours passaient, et je pense que la pression était de plus en plus forte sur les enquêteurs. Et il s'est trouvé que il y a eu des premières investigations de la police scientifique dans la maison, qui ont amené à la découverte de traces de sang dans la cuisine. Donc les enquêteurs ont commencé à avoir un doute, savoir s'il n'y avait pas eu une affaire criminelle dans cette maison, mais sans jamais trouver la trace des corps. Ce n'est que aux alentours du 20 ou 21 avril que les policiers vont recevoir les premières réponses des réquisitions bancaires et qu'un policier va découvrir l'existence d'achats faits par la carte bleue d'une des sociétés de Xavier Dupont de Ligonnès. Alors des achats compromettants au Castorama et au Jardiland, puisque ce sont des achats notamment de la chaux et du ciment à prise rapide, qui là ne laissent plus aucun doute aux enquêteurs, puisque la chaux, on sait très bien que ça sert à masquer les odeurs de corps en décomposition. Donc à ce moment-là, le 21 avril au matin, ils n'ont plus aucun doute. Ils savent qu'un drame s'est commis dans cette maison. À ce moment-là, c'était branle-bas de combat. Ils sont tous retournés dans la maison avec cette fois la certitude qu'il faut trouver une preuve de ce drame. Et finalement, cette journée va être extrêmement longue, puisqu'ils vont extraire les corps un par un, et les journalistes, à l'extérieur, vont faire un espèce de comptage macabre, un corps, deux corps, trois corps. L'idée est de savoir combien, au final, on va sortir de corps. Et effectivement, à la fin de la journée, il n'y en a que cinq. Donc, il manque le corps de Xavier Dupont de Ligonnès, et à partir de cette minute-là, il devient le suspect numéro un.
Émotion très forte à Nantes en ce dimanche de Pâques. Après le quintuple meurtre, Xavier Dupont de Ligonnès est recherché par toutes les polices d'Europe. Nous reviendrons en détail.
En creusant, les policiers viennent de déterrer cinq cadavres. L'autopsie révélera qu'ils sont morts dans leur sommeil. Chacun d'au moins deux balles dans la tête. Depuis, plus aucune trace de Xavier de Ligonnès. Mais des éléments sur sa vie. Des problèmes financiers, une maîtresse auprès de laquelle il s'était endetté et son inscription dans ce centre de tir. Depuis le mois de décembre, il s'y entraînait avec une arme 22 longs rifles, le même calibre qui a servi lors de la tuerie.
Je rentre en France et puis ma petite semaine se passe bien jusqu'au vendredi. Le vendredi soir, je prépare mon petit sac d'ordinateur pour rentrer chez moi avec ma voiture de service. Et au moment de fermer la porte de mon bureau, j'entends mon téléphone qui sonne. Je reçois cet appel de mon collègue de la PJ Nantes qui me dit « Voilà, on a découvert un message de Xavier Dupont de Ligonnès posté le 8 avril sur le forum citécatholique.org. On a besoin de vous pour essayer d'analyser ces messages et surtout pour essayer de détecter si jamais il reposte un nouveau message ou si quelqu'un répond à ce message pour voir si c'est pas un code. L'enjeu, c'est de retrouver la trace numérique de Xavier Dupont de Ligonnès. » Et donc, ils nous demandent de l'aide, puisque nous, on est les experts, et que finalement, on s'aperçoit en même temps qu'il y a beaucoup de données informatiques à exploiter, puisque il apparaît dès le départ que Xavier poste beaucoup sur des forums catholiques. C'est un homme qui a eu une éducation religieuse particulière. Son rapport à la religion est très compliqué. Et pendant tout le week-end, je me plonge dans tous ces postes théologiques incompréhensibles. Et j'ai passé des heures à analyser tous ces messages de Xavier Dupont de Ligonnès, à essayer de le recouper, tous ces pseudos, puisqu'il se faisait bannir sans arrêt. Donc, il réapparaissait sous des centaines de pseudos. Donc, on s'est imaginé qu'il y avait un code qui allait apparaître ou un message. Malheureusement, il n'est jamais arrivé. Et donc, c'est ce jour-là que ma vie bascule dans l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Moi, j'étais enquêteur sur le terrain pendant des années, enquêteur à la BAC, donc c'est l'adrénaline la plus pure. Et finalement, j'ai retrouvé en étant assis derrière un ordinateur, derrière un écran, cette adrénaline que j'avais à la BAC en lisant des fichiers informatiques. C'est du délire, mais finalement, quand vous analysez ces fichiers, vous êtes pratiquement dans la tête du suspect et vous voyez seconde par seconde ce qu'il fait. C'est-à-dire que quand vous avez un fichier, vous savez précisément où il est, puisque c'est localisé, vous savez quelle machine il utilise, vous savez si c'est sa clé 3G ou si c'est son ordinateur, s'il est à la maison ou pas. Et ça, c'est une vraie adrénaline, surtout quand vous trouvez des choses que mes collègues ne trouvent pas dans la cavale. Donc, on cherche des traces de Xavier Dupont de Ligonnès. Donc, l'idée, c'est d'abord d'essayer de capter ses adresses IP, de savoir avec quoi il se connecte, quand, où. Et donc, dès le début, on récupère les données de connexion du site Cybercato. Et le souci, c'est que comme l'affaire est dévoilée dans la presse, à partir du 21 avril, c'est comme si vous fassiez passer un troupeau de chevaux sur une scène de crime. C'est-à-dire que tous les internautes piétinent le site Cybercato. Donc, on se retrouve avec un fichier qui fait plus de 5 millions de lignes à décortiquer et à essayer de discerner qui est Xavier Dupont de Ligonnès parmi tous ces gens et en plus des gens qui s'inscrivent comme Xavier Dupont de Ligonnès. C'est ça le pire. Donc, rapidement, vu qu'on a quand même la trace d'un message certifié de Xavier Dupont de Ligonnès en date du 8 avril, j'exploite cette donnée-là et j'arrive à extraire une ligne de code qui me montre que Xavier Dupont de Ligonnès utilisait un ordinateur de marque Toshiba, un vieux ordinateur portable, qui était encore à l'époque sous Windows 95. Donc finalement, c'est ce qui m'a permis de pouvoir filtrer, parmi ces 5 millions de lignes, toutes les connexions de cet ordinateur, attribuées uniquement à Xavier Dupont de Ligonnès. Et donc moi, j'ai toujours des connexions, chaque soir, de Xavier Dupont de Ligonnès sur ce forum catholique. Donc ce qui me permet de le localiser. Alors, le 10 avril 2011, c'est un dimanche matin, Xavier Dupont de Ligonnès quitte Nantes pour un périple qui passe par La Rochelle, Toulouse, Avignon, la Seine-sur-Mer, jusqu'à Roubrune-sur-Argence dans le Var. Je pense qu'il a dans la tête une destination finale et qu'il sait qu'il a plusieurs jours d'avance sur nous, puisque les corps sont enfuis. Et de toute façon, je sais qu'en plus qu'il écoute la radio et la télévision. Et donc finalement, je pense qu'il s'en fout complètement de savoir s'il laisse des traces, puisque de toute façon, personne ne le cherche à ce moment-là. Et puis, le 21 avril 2011, une patrouille de gendarmerie découvre la Citroën C5 de Xavier Dupont de Ligonnès sur le parking de l'hôtel Formule 1 de Roquebrune-sur-Argence dans le Var. Ils appellent le numéro d'urgence et c'est la BRI de Nice qui est appelée sur place. Ils encerclent l'hôtel. Et à ce moment-là, les policiers, à mon avis, sont convaincus que Xavier Dupont de Ligonnès est dans l'hôtel. Et donc, ils investissent l'hôtel à 1h du matin et ils découvrent qu'il n'est plus dedans, qu'en fait, il est parti depuis plus de 10 jours puisqu'il est déjà parti depuis le 15 avril. Donc, on mesure le temps de retard. Dans la foulée, mes collègues accèdent aux vidéos et effectivement, la caméra est à peine 2 mètres de la sortie de sa chambre. Donc, le 15 avril au matin, Xavier Dupont de Ligonnès sort de sa chambre. Il a ses petites lunettes, il jette un regard furtif à la caméra. On peut analyser les vidéos en les regardant image par image et c'est en faisant cet arrêt sur image que vous pouvez voir le regard fixé de Xavier Dupont de Ligonnès sur l'objectif. Ce moment furtif où il jette un coup d'œil à l'objectif de la caméra, moi je l'ai encore en mémoire, ce coup d'œil à la caméra, je ne sais pas si c'est une provocation, mais en tout cas, c'est quand même quelque chose. Donc il passe sous la caméra du parking avec son sac qui est curieusement du bon côté de la caméra, avec une forme qui laisse penser que c'est une carabine. Donc évidemment, tout le monde pense qu'il part se suicider, que voilà. En 2011, il y a une pression médiatique. C'est-à-dire que l'affaire Dupont de Ligonnès, tous les médias en parlent, c'est 24 heures sur 24 en boucle. Moi, je peux vous garantir que tous les matins, en arrivant au bureau, je lisais moi-même Le Parisien à l'époque, pour pas le citer, qui publiait une carte de la cavale de Xavier Dupont de Ligonnès. Et ils étaient tellement rapides que j'apprenais parfois des informations dans la presse avant même de la bouche de mes collègues. Donc, on est justement le nez dans le guidon, on est dans la traque absolue. Alors, il faut savoir que la PJ Nantes avait mis en place un numéro vert où on pouvait recevoir tous les signalements de Ligonnès. Donc j'avais des centaines d'appels par jour, c'était incroyable. Moi j'arrivais souvent très tôt au bureau, dans les premiers. Et donc c'est un matin de, je sais plus, mai ou juin 2011. Je traverse le couloir de l'office cyber et j'entends que mon téléphone sonne déjà dans mon bureau avant même que j'arrive. Bon, j'étais un peu habitué que ça sonne tout le temps, mais donc je me dépêche d'ouvrir la porte, je décroche et au bout du fil, j'ai une jeune fille avec une voix tremblante qui me dit « Je crois que j'ai Xavier Dupont de Ligonnès devant moi en train de prendre son petit déjeuner dans un hôtel à côté de Chartres. » Alors déjà, moi je suis encore debout, j'ai encore ma sacoche d'ordinateur, je suis à peine assis et je saisis mon téléphone portable dans ma poche et j'avais repéré que le bureau de la commissaire de mon service était déjà allumé. Du coup, je prends deux téléphones, je garde la jeune fille en ligne et j'appelle la commissaire, je lui dis « Écoutez, est-ce que vous pouvez vite venir dans mon bureau parce que on a peut-être le mec au bout du fil, quoi. » Donc la commissaire arrive et puis donc elle comprend que c'est une piste potentiellement super sérieuse puisque la gamine me décrit un homme qui ressemble à Xavier Dupont-Ligonnès. Elle me donne l'identité de la réservation qui match complètement avec une des fausses identités qu'on connaissait. Donc tous les voyants sont au vert pour dire j'ai potentiellement Xavier Dupont-Ligonnès au bout de mon téléphone. Donc là, c'est la guerre atomique, c'est-à-dire que ma commissaire, elle appelle partout, l'état-major de la PJ, tout le monde. Et puis moi, je suis dans un bureau avec une baie vitrée qui donne sur l'entrée du garage de la police judiciaire de Nanterre et je vois toutes les voitures qui sortent les unes après les autres avec les sirènes. Enfin, c'est un truc incroyable. Là, tout le monde croit qu'on va arrêter Xavier Dupont de Ligonnès. On est comme des dingues. Et puis, au bout d'une demi-heure, je reçois un coup de fil en me disant « fausse piste ». Mais il y a, voilà, ces petits moments de l'enquête où on y croit, quoi. On se dit « waouh, on est à un millimètre de trouver le fugitif, c'est fantastique ». Le 26 juillet, c'est l'opération de la dernière chance. C'est-à-dire qu'il y a une quarantaine de points, je crois, dans toute la France pour essayer de débusquer Xavier Dupont de Ligonnès, parce qu'on imagine encore à l'époque qu'il peut être planqué dans un château de la famille ou chez son meilleur ami Michel Rétif. Et donc moi, je fais partie de cette équipe qui va débarquer chez Michel Rétif le 26 juillet 2011, à 6h du matin, j'étais devant sa porte. Et je vous assure que quand on est descendu de Nanterre à Montpellier en voiture, on y croit tous, quoi. Et le matin, quand on encercle la maison avec les policiers de Montpellier, de la BRI, je vous assure qu'il n'y a pas un bruit, quoi. On est tous concentrés. Dans les minutes qui suivent, on va mettre les menottes à Xavier Dupont de Ligonnès. Et donc, effectivement, une fois que la porte s'ouvre et puis que vous visitez la maison et que vous ne trouvez pas Ligonnès, évidemment, il y a cette déception. De mémoire, il y a une quarantaine de perquisitions menées dans toute la France. Et je pense qu'à la suite de ces perquisitions, la police judiciaire commence à s'essouffler, parce qu'il faut bien dire qu'il y avait au moins une centaine d'enquêteurs qui étaient sur le dossier, et les dossiers, il y en a d'autres, et qu'on ne peut pas passer toute notre vie à chasser Xavier Dupont de Ligonnès. À ce moment-là, j'ai été prévenu de l'existence d'un petit groupe fermé sur Facebook qui menait une enquête parallèle. Et on m'a expliqué que ce groupe était composé de gens très sérieux, dont plusieurs membres de la famille de Ligonnès. Donc effectivement, j'ai découvert un petit groupe de gens très discrets qui me faisaient remonter des informations passionnantes et des pistes qu'on a exploitées. Et puis donc, un climat de confiance s'est installé et puis j'ai fini par échanger avec eux quelques documents. C'est ce qui me sera reproché plus tard. Parce que c'est en 2012 que j'ai découvert que ces documents que j'avais sur mon bureau avaient été publiés dans plusieurs journaux. Et donc je me suis interrogé sur l'origine de la fuite. Je veux savoir comment j'ai été trahi. Et la première chose que je fais finalement, c'est que j'appelle tous ces gens. Et finalement, très rapidement, je découvre la vérité. Il y a eu un garçon qui s'appelait Christy de la Vérité qui a eu l'idée de me dénoncer dans les colonnes d'un journal qui s'appelle Les Inrocks. Même aujourd'hui, en 2026, j'ai toujours pas compris sa démarche. Quel était l'intérêt d'aller dénoncer un policier comme étant l'auteur de cette fuite? Enfin bon. Mais ces documents qui ont été publiés ont déclenché la plainte de Christine Dupont de Ligonnès, qui est une des sœurs de Xavier Dupont de Ligonnès. Elle a dû se sentir à ce moment-là blessée par un ou deux de ces documents privés. Donc moi, j'ai été convoqué à l'inspection générale des services de la police le 16 septembre 2013. Et je suis entendu sur ces faits. Moi, j'explique effectivement dans quel cadre j'ai transmis ces documents dans le but unique de retrouver Xavier Dupont de Ligonnès, et ce qu'ils comprennent très bien. Je rappelle que c'était des documents qui n'avaient aucune importance stratégique. Donc ma garde à vue, elle s'est très bien passée. Les enquêteurs ont tout de suite compris que c'était une affaire de merde. Ils sont venus à la maison et finalement la perquisition était hyper light puisque de toute façon ils savaient très bien qu'il n'y avait rien à chercher. Et quand je sors de ma garde à vue de l'IGPN, tout le monde pense que l'affaire est finie. C'est seulement un an ou deux après que je vais découvrir à ma porte un huissier qui va me déposer une convocation devant le tribunal correctionnel de Paris, où là, ma vie et celle de ma famille basculent. Quand vous êtes mis en cause de manière correctionnelle, vous êtes soumis à une peine de prison, à une énorme amende, 350 000 euros d'amende ou je ne sais plus quoi, donc... Moi et ma famille, puisqu'on se dit, si ça arrive, qu'est-ce qu'on va faire? Et puis surtout, si vous êtes condamné en tant que policier, ben vous perdez votre métier, vous vous retrouvez du jour au lendemain à la rue, quoi. Et on n'a pas le droit au chômage, hein, quand on est policier. Donc effectivement, vous vivez avec cette épée Damoclès au-dessus de la tête. Donc je vais l'avoir pendant 2 ans avant le jugement. Donc 2 ans où on dort assez mal. Le premier jour du tribunal, on apprend que la partie adverse est partie en vacances. Et donc le tribunal annonce, l'affaire est reportée dans 1 an. Donc bing, on en reprend encore pour 1 an. Et donc le jugement arrive, je passe des heures et des heures à la barre. Alors c'est extraordinaire, putain, on aurait dit que c'était moi Xavier Dupont-Ligonnès. Ils m'ont décortiqué pendant des heures, et pourquoi, et machin. En fait, ils attendaient qu'une chose, c'est que je reconnaisse avoir transmis ces documents, puisque pour eux, c'était ça, le truc, la transmission qui caractérisait l'infraction, nanana. Donc là, ils pouvaient enfin me condamner. Mais moi, en fait, je comprenais pas leur histoire, parce que moi, je l'avais déjà reconnu en garde à vue. J'ai même pas compris, en fait, ce tribunal qui voulait absolument que je le dise à la barre. Donc voilà, bon, c'était une épreuve. Mais moi, j'étais démoli ce soir-là. Démoli quand je suis rentré chez moi. Et finalement, j'ai été condamné à une amende, mais voilà, fin de l'affaire. Ce qui est hyper important, c'est que la police judiciaire ou la police nationale ne m'en a pas tenu gré, puisque je n'ai pas eu de sanctions administratives de ma hiérarchie. En tout cas, c'est la justice qui m'a condamné et pas la police. À partir de ma condamnation, effectivement, moi, l'affaire Ligonnès, elle part aux oubliettes. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de super positif dans notre vie. Donc moi, l'affaire Ligonnès, plus jamais, quoi. C'est bon, j'ai donné. Et donc je pars en retraite, et je vous assure que j'emporte même pas une clé USB avec moi de l'affaire Ligonnès, c'est bon, quoi. En 2021, j'ai quitté la France pour vivre ma retraite en Slovaquie. Et j'ai bien l'intention de profiter de ma retraite et d'oublier tout ça. Et finalement, c'est l'affaire elle-même qui revient dans ma vie alors que je lui demande rien. Puisqu'il y a un bouquin qui sort dont le titre est « Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont-Ligonnès ?» Et 2 jours après, mon épouse, elle me dit « Tiens, je t'ai apporté le livre que t'as commandé. » Je dis « Mais j'ai rien commandé du tout. » Elle dit « Si, si, t'as ajouté un bouquin dans le panier Amazon. » Et elle me dit « J'ai cru que ça t'intéressait le thème et que tu voulais lire le bouquin. » Et donc, je me retrouve avec le bouquin de « Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont-Ligonnès ?» dans mes mains. Bon, s'il est là, je vais le lire. Et à peine 48 heures après, j'ai déjà la dernière page, quoi. Enfin bon... Ce bouquin m'irrite, en fait, pour tout dire. Parce que le romancier n'a pas participé à l'enquête, et finalement, je lis plusieurs choses qui m'irritent, et je me dis, mince, c'est pas vrai tout ça. Et je dis, bon, ça me plaît pas, je vais aller vérifier moi-même ce qui est vrai et ce qui est pas vrai. Et donc, je me replonge dans tous les bouquins, tous les podcasts, tous les machins, et c'est reparti, quoi. Là, ça se réveille à fond. Donc nous sommes en février 2024, je n'ai pas la moindre idée de ce que je vais pouvoir trouver, mais je ne suis jamais allé à Roquebrune-sur-Argens pendant l'enquête, puisque j'étais coincé dans mon bureau, et j'éprouve le besoin d'aller là-bas. Et je décide de prendre mon petit ordinateur et de me remettre avec Google Maps sur le parking de l'hôtel Formule 1 en 2011, puisque Google Maps vous permet de voyager dans le temps. Et donc, me voici en Slovaquie, derrière l'écran de mon ordinateur. Et donc, je scrolle ma souris dans les rues qui adjacent le Formule 1. Et je me mets dans les pas de Xavier Dupont-Ligonnès. Ce qu'on voit immédiatement, c'est la Nationale 7 qui borde l'hôtel, où il y a des dizaines de vendeurs de voitures d'occasion et des vendeurs de camping-cars. Le camping-car, c'est pas mal, ça, pour prendre la fuite. Donc, Ligonnès a abandonné sa bagnole. Donc, soit il a acheté une bagnole d'occasion dans un de ses garages, ou soit, effectivement, il aurait pu louer un camping-car. Et donc, je commence à faire des recherches sur les boîtes de camping-car. Et je finis par faire un match absolument incroyable entre Nantes et Roquebrune. Je découvre l'existence d'une société de vente de camping-car dont la raison sociale est aussi, à Orvault exactement, dans la même zone commerciale que le Jardiland où Xavier Dupont-Ligonnès a acheté tout le matériel pour enfuir les corps. Et donc, il existe une page du site qui dit qu'on peut retirer un camping-car à Orvault, enfin le louer, et le retirer à Roquebrune-sur-Argence. Et finalement, c'est ça qui va relancer mon enquête. Je décide de retourner physiquement sur le terrain à Roquebrune. Donc je prends l'avion, je vais à Nice et je vais aller interroger les gens des camping-cars. De fil en aiguille, je vais trouver un premier témoin, un deuxième, quatre témoins qui tendent à démontrer que Xavier Dupont-Ligonnès donc ne s'est pas suicidé dans les jours qui ont suivi sa disparition du parking, qu'il était toujours dans le secteur. Et puis au fur et à mesure, j'arrive à trouver de plus en plus d'indices et de choses qui se recoupent et qui sont cohérentes surtout. Plus tard, je vais découvrir l'existence d'un vol Nice-New York quand il partait aux États-Unis avec son ami Michel Rétif. Aujourd'hui, avec du recul, c'est quoi l'affaire Ligonnès ? C'est l'histoire d'un homme qui est en pleine déchéance financière. Il écrit des lettres où il dit « Depuis le premier jour, je pars aux États-Unis ». Et finalement, 15 ans après, est-ce que quelqu'un est allé voir si Xavier Dupont-Ligonnès est aux États-Unis ? J'ai pas connaissance qu'il y ait eu une enquête très poussée aux États-Unis, mais je pense qu'il est quand même super important, même 15 ans après, d'aller aux États-Unis. Je vous avoue que si mon travail pouvait permettre de retrouver une trace de Xavier Dupont-Ligonnès, je serais très fier. Mais c'est pas pour moi, c'est avant tout pour la famille. Vous vous rendez compte, depuis 15 ans, ces gens-là, ils attendent. Tous les jours, je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible que ça s'arrête là, après avoir trouvé tout ce que j'ai pu trouver. Donc moi, mon plan, c'est d'aller au bout de ce que j'ai commencé. C'est-à-dire que je vais partir aux États-Unis, et je doute même pas une seconde que je vais trouver quelque chose. Donc évidemment, je vais pas aller aux États-Unis et ramener Xavier Dupont-Ligonnès dans mes valises, puisque ce serait trop beau. Mais je suis convaincu que je vais trouver une empreinte de Xavier, et que je vais devoir y retourner deux ou trois fois, voire plus, pour avancer. Et donc, jusqu'où ça va m'emmener, j'en sais rien. On verra, l'avenir nous le dira.
C'était Retrouver Xavier Dupont de Ligonnès, un reportage de Claudia Prolongeau réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Gilles Calou, à Valentin Rémy, l'attaché de production des Pieds sur Terre, et à Adèle Toquet, notre stagiaire.